Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la Reine Christine.
Salut, vous êtes sur Clittérature.
Salut.
Coucou.
On est avec Hélène et Manon.
Yes.
On est là pour parler de littérature féministe, jeunesse, roman, essai. Et on commence avec Manon. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Manon ?
Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une sortie littérature jeunesse qui s'appelle D'or et d'Orier de Flore Vesco. Donc, c'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est écrit par une super autrice de littérature jeunesse. Elle avait eu un grand succès avec De Cap et De Mots et elle a reçu plein de prix dernièrement pour L'étrange malaventure de Mirella, que je vous conseille aussi vivement. Et là, on a un récit, franchement, super féministe, qui détourne un conte, au départ, celui de la princesse au petit pois. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui est un peu... Enfin, moi, qui m'avait super ennuyée quand j'étais petite. Et du coup, là, c'est l'histoire, en fait, d'un lord, qui s'appelle Lord Andersen, qui vit dans un château presque tout seul, et qui cherche à épouser une femme du royaume. Donc, voilà, début de conte plutôt classique. Hein. Et pour cela, il va leur faire passer en fait des tests, le test de dormir une nuit dans son château. Donc il y a une grande majorité des jeunes filles du royaume qui viennent et qui ne réussissent pas ce test, c'est-à-dire que le matin venu, elles repartent chez elles. Cette chambre, elle est assez mystérieuse, on va le découvrir après. Elle a un espèce de lit vertigineux d'une dizaine de matelas, donc vraiment la référence au conte de la princesse au petit pois. Et du coup, il y en a une qui va réussir à passer la première nuit, c'est Sadima, une femme de chambre d'une des familles du royaume. Une jeune fille robuste, vaillante, hyper anti-cliché de tout ce qu'on peut faire justement dans les contes. Et on va apprendre petit à petit ce que font aussi les jeunes filles toutes seules la nuit. Parce qu'elle va passer cette première nuit, puis il va y avoir d'autres épreuves. Donc j'ai trouvé vraiment ce livre juste génial, parce que effectivement on part d'un conte hyper classique, hyper misogyne en fait, mine de rien. Je sais pas si vous vous souvenez des contes qui vous ont marqué, mais celui-là moi il m'a marqué parce qu'il est tellement chiant. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui en gros épouse son prince parce qu'elle a détecté le tout petit pois qui est entre je sais plus combien de matelas, et tu comprends, elle est tellement sensible et fine et extraordinaire que du coup voilà, c'est vraiment la vraie de vraie princesse, et elle c'est tout sauf une princesse. Et c'est vraiment elle le personnage fort, c'est-à-dire qu'on va suivre on va la suivre dans son péripétie dans le château. On va la suivre dans sa découverte un peu aussi de sa sexualité. Le prince, on en parle presque pas, dans le sens où il est juste lui en tant que un peu faire-valoir. Mais en même temps, très bonne position aussi dans le conte.
C'est bien, c'est bien. Pour une fois, écoute.
Et en fait, c'est elle qui va, sans vous spoiler, mais on va s'en rencontrer vite, c'est elle qui va le sauver, quoi. Donc encore mieux. Ça remet vraiment en perspective l'univers des contes. Ça met en perspective une forme aussi d'inversement des rôles, d'absurdité parfois de rôles féminins qui sont vraiment pris pour des neuneux. Et surtout, c'est très très bien écrit. Flore Vesco, elle a cet art de manier vraiment subtilement la langue. C'est une histoire, en fait, c'est pas une histoire de princesse, c'est une histoire presque de sorcière, sans vraiment le dire clairement, mais en tout cas elle découvre des pouvoirs au fur et à mesure dans ce château, et en fait elle va prendre position, elle va prendre force, et elle va montrer ce dont elle est capable. Et ce que j'aime aussi dans ce bouquin, c'est que au-delà de l'inversement des rôles et de mise en perspective des princes, des princesses, etc., on a en fait effectivement cet éveil à la sexualité. Et donc la nuit, qu'est-ce qui se passe dans le lit pour les jeunes filles? Et je vais vous lire justement un extrait. Donc, D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions École des loisirs. Elle avait fini par grimper dans le lit, donc ce fameux lit de la chambre secrète. Sadima ferma les yeux, elle se revit en haut de la pile de matelas. Là-haut, la couche tient de la cabane dans les arbres et du nid. On tire les tentures, la pénombre, le silence, les pans douillés du cocon vous enveloppent. Elle est au-dessus de tout, au sens propre et figuré. Sadima est habituée à garder la tête basse, à s'agenouiller devant les sœurs Watkins pour ajuster un bas ou nouer une bottine. En haut du lit, elle survole tous ses petits soucis. L'angoisse de sa fugue, les risques qu'elle court, tout cela est resté au sol. Ainsi libérée, elle ne se préoccupe que de l'instant présent. Le présent, c'est le corps. Sa peau est terriblement éveillée. Elle sent la douceur des draps sous ses jambes, le moelleux de l'obscurité contre ses tempes. Il serait dommage de dormir. Serrée contre lui, Sadima lutte contre les hauts et les bas de sa journée. Elle discute longuement, bouche contre bouche, avec son ami imaginaire. Elle trouve plus facile de se confier quand le souffle des mots n'a aucun chemin à faire et se dépose directement entre les lèvres de son confident. Certains aveux plus secrets, elle les murmure directement au creux de son oreille, non sans en mordiller le lobe, pour que ses paroles effleurent la peau humide, devenue si sensible. Quand elle fait cela, s'il a les deux mains autour de sa taille, il se met à l'étreindre de toutes ses forces. Sadima adore cet étau. Elle finit par s'endormir contre lui, le nez au creux de son coude, le front posé sur sa poitrine qui se soulève doucement. Il est juste dommage que cet amoureux n'existe que dans son imagination. Ou plutôt non, ce n'est pas si regrettable, car rien n'est plus plaisant que de rêver. En haut du lit, Sadima s'emmitoufle dans le duvet. Elle rejoint son amoureux et déroule leurs caresses habituelles. Tout à l'émerveillement de sa rêverie, elle sombre doucement. Elle ouvre la porte aux chimères de la nuit, aux fantasmes enfouis. Perd le contrôle de son songe. Son histoire inventée ne lui appartient plus tout à fait. Ses imaginations gagnent en consistance. Son amoureux est vraiment là. Il lui avoue timidement qu'il a des pouvoirs, qu'il fait de la magie. Elle sent un tressaillement vriller sa colonne vertébrale et soulever la racine de ses poils. Soudain, l'amoureux est tout petit. Sadima rit. Son père lui a donné un mari, mais quel petit homme! Elle le perd dans son grand lit. Le petit homme grimpe le long de ses jambes. Il s'agrippe aux poils fins à l'intérieur des cuisses et Sadima frissonne. Il poursuit sa remontée. Elle sent sur sa peau le minuscule piétinement de ses petits souliers. Sa respiration s'accélère. La houle de son sang martèle un nouveau rythme. Elle l'écoute, comme lui, des mots qui donnent naissance à des formules. C'est sa magie. Des petits points et points-virgules pétillent sous ses paupières. Cette ponctuation la saisit. Elle s'accélère, monte, grimpe plus haut que les matelas. Les petits points se suspendent, puis s'épanouissent en corolle jusqu'au point d'exclamation. Voilà, c'est fin, c'est bien écrit. Et puis je trouve qu'il y a de plus en plus de littérature, entre guillemets, érotique pour les ados, grands ados. Et je trouve ça super que ça, ça se développe comme ça. Et surtout à l'école des loisirs, voilà, super, super découverte. Et du coup, pour enchaîner sur l'ambiance un peu sorcière, j'avais envie de vous faire découvrir une chanson d'Anne Sylvestre, qui était une autrice, compositrice, interprète, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, qui était quand même une chanteuse qui chantait beaucoup pour les enfants, puisqu'elle a remis beaucoup de contes en musique, mais c'était surtout une chanteuse féministe qui défendait dans ses textes la cause des femmes dans un monde d'hommes. Voilà.
Quelle chanson ? Une sorcière comme les autres ?
Une sorcière comme les autres, trop forte Hélène.
Voilà.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, tombe, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Merci Manon, c'était trop bien, ça a l'air trop cool.
Merci. Ouais.
Et on poursuit avec Hélène. Hélène, oui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Alors moi aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un petit livre pas très connu, d'une autrice que vous ne connaissez probablement pas. J'ai nommé King Kong Theory de Virginie Despentes.
C'est qui?
C'est un homme.
Oui, voilà, donc désolée, j'arrive complètement après la bataille. Avoir 40 ans et ne pas avoir encore lu ce monument, cet ouvrage culte du féminisme français, c'est bien simple, j'ai failli rater ma vie.
Bon, il est jamais trop tard.
Heureusement, Morgane, ici présente, meilleure libraire du monde, a créé il y a quelque temps un rayon féministe à Bédélire, où j'ai trouvé il y a quelque temps déjà la version poche de ce formidable bouquin que j'ai fini donc par lire. Bon, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de l'ouvrage, parce qu'il y en aurait pour 2 heures. Je vais juste vous parler du chapitre qui m'a le plus touchée. Yes. Attention, en revanche, je mets un gros trigger warning. Je vais parler du chapitre où elle évoque son viol. Mmh. Donc si c'est un sujet sensible pour vous, n'hésitez pas à faire avance rapide et à passer à la critique suivante qui a l'air vachement plus minouche. Bon, alors, pour recontextualiser un peu, Virginie Despentes a été violée quand elle avait 17 ans. Alors qu'elles revenaient de Londres avec une amie où elles étaient allées acheter des disques et des fringues. Et comme elles avaient dépensé tout leur argent, elles font du stop pour rentrer chez elles à Nancy. À un moment donné, elles montent en voiture avec 3 gars qui malheureusement les violent en les menaçant d'une arme.
Super.
Bonne ambiance.
Et ce qui personnellement m'a retourné le cerveau, c'est pas du tout cette scène, hein, parce que bon, c'est des trucs qui arrivent vraiment très souvent, c'est ce qu'elle écrit un peu plus loin. Quand elle explique que quelques temps après ce viol, elle tombe sur un article dans une revue de Camille Paglia, qui est une écrivaine féministe américaine d'origine italienne, qui en gros disait que le viol, bah, c'est un risque inévitable que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Et que en gros, si ça t'arrive, relève-toi, dust yourself et passe à autre chose, ou si ça te fait vraiment trop peur, tu restes chez toi. Donc je vais vous lire l'extrait où elle parle justement, Virginie Despentes, de cette découverte de Camille Paglia. Alors elle dit « Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser le viol comme un risque à prendre inhérent à notre condition de fille. Liberté inouïe de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe, seul, sans un mec avec nous, la nuit. » Oui, on avait été connes et faibles, incapables de leur péter la gueule. Faibles comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé. Et pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que, chez papa, maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Alors attention, hein, je veux absolument pas minimiser le trauma qu'on peut subir après un viol, ni faire une injonction à se relever à tout prix et faire comme si tout allait bien si ce n'est pas le cas. On fait évidemment comme on peut, d'ailleurs elle-même le dit que ça n'a pas été simple hein, pour elle, mais juste moi, ce qui me retourne le cerveau, c'est qu'on m'avait jamais dit qu'on pouvait s'en remettre. Dans mon esprit, être victime d'un viol, c'était juste la pire chose qui pouvait arriver à une femme. La garantie d'être traumatisée jusqu'à la fin de mes jours, et que ma vie soit bousillée. Donc quand Despentes me dit que oui, en tant que femme, je prends ce risque dès que je sors de chez moi, ou pour être plus précise, dès que je côtoie un homme, parce que ça arrive à la maison, hein, on est d'accord, même le plus souvent ça arrive à la maison en vrai, mais que ma vie sera pas forcément foutue pour autant si ça arrive, elle me donne un pouvoir immense. Elle me donne la liberté de choisir, de prendre ce risque ou non. Et moi, ça m'a tuée. Mmh. Vraiment, j'ai en larmes quand j'ai lu l'extrait, quoi. Je me suis arrêtée, j'étais ah bon ? Ah d'accord ! Waouh !
Mais ça, quand même, met en lumière tellement de formes d'injonction qui sont assez dingues. Et je trouve que ces bouquins-là, ils sont... Enfin, ça va devenir des grands classiques. Ça, c'est évident.
Ouais. C'est déjà le cas, ouais.
Et en fait, je sais plus, je crois qu'il a... Enfin, je sais plus combien d'années il a été écrit, mais ça, même encore ouais, plus. Hein. Ouais. Et c'est assez fou de te dire de lire encore effectivement ces textes-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait le même effet de me dire, mais en fait, la notion de droit, effectivement, ouais. de ce qu'on peut faire, de comment est-ce qu'on peut se relever en fait de tout ça. Et c'est assez fou que ce combat féministe il soit toujours présent sur des thématiques en fait ouais. toujours identiques, parce qu'effectivement, c'est hyper important qu'on continue. Et qu'on découvre en fait ces textes-là.
C'est ça.
Parce qu'ils nous réveillent, et que ce soit de la littérature militante, combative, érotique, documentaire, enfin en fait, le panel il est tellement incroyable. Et juste lire des femmes, tout court.
Bah
en
oui.
fait. Juste ça. C'est juste énorme. Et ce que tu dis là sur l'extrait du viol, on peut le positionner sur tellement de thématiques.
Ah bah sur tous les chapitres de son.
C'est ça.
Celui-là m'a le plus touché, mais vraiment j'étais scotchée de ce bouquin. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas lu ce truc avant, quoi. Enfin, comment ça se fait? En fait, je pense que j'étais pas prête, clairement, parce que même quand je l'ai acheté, j'ai attendu des mois avant de le lire. Donc, ouais. quelque part, je me disais, je sens que ça va être un tournant. Ouais. Clairement, quand je vais avoir lu ça. Yes. Donc, c'était trop intéressant. Après, oui, elle est vulgaire, oui, elle est trash, oui, elle est...
Elle a une manière d'écrire, en fait, qui est hyper violente.
Voilà.
En même temps,
mais là, en l'occurrence, ouais, ça m'a pas dérangée. Je sais que dans ses romans, c'était pas un truc qui me plaisait plus que ça. Enfin, on en a déjà parlé hors caméra, j'allais dire. ses romans, m'ont pas touchée particulièrement, mais là... Ouais, donc du coup j'ai envie de lire toutes ces autres œuvres et de lire aussi Camille Paglia, ça oui, parce que voilà, c'est vraiment des théories entre guillemets, des concepts dont on nous parle peu finalement, hein.
Clairement.
Alors pour accompagner cette lecture,
tu lui fais quoi, hein,
exactement. Yes. Je me suis dit que je pouvais pas ne pas mettre Rebel Girl de Bikini Kills, yes. qui est dans la BO d'ailleurs de Moxie. J'en parle parce que c'est sur Netflix et que c'est l'adaptation d'un roman ado qui est trop trop bien. Et donc voilà, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder Moxie, c'est trop bien. Et il y a Rebel Girl toutes les 3 secondes dans ce film. Mais voilà.
Mais en fait, on est clairement sur littérature jeunesse grand ado, parce que je considère que King Kong Theory, on peut lire aussi ado, même si c'est trash.
Ah bah, clairement, tu vois, moi je vais le faire lire à ma fille quand elle sera fin de collège, début de lycée, je pense. Et je me dis, mais pourquoi on m'a pas fait lire ça quand j'étais ado, quoi, enfin quand j'étais au lycée, tu vois.
Donc,
ouais. Mettez-le au programme. Je pense pas. Hein, peut-être un jour, on sait jamais.
Yes. Quand on aura Christiane Taubira présidente.
Et Virginie Despentes à la culture ou à l'éducation.
She got the hottest track in town. That girl, she
dire, Morgane, du coup, une petite BD?
Moi, je vais être gentille aujourd'hui.
Oui, parce que la dernière fois, t'as été méchante.
J'ai très méchante.
T'as tiré sur Andy Warhol.
Tu voulais que les hommes n'existent plus.
Ça n'a pas fonctionné. Donc, on reprend avec la magie, hein, parce yes. que peut-être que cette fois, ça fonctionnera. Donc, on va étudier Snapdragon. C'est un roman graphique tout public. J'ai mis qu'il pouvait être lu à partir de 8-9 ans. Voilà, c'est... Franchement, c'est tellement cool que moi, j'ai 28 ans, je l'ai lu, je trouvais ça super. L'autrice, elle s'appelle Kat Lee. Elle est américaine, queer, militante, féministe. La bande dessinée, elle est parue aux éditions Kinaï et elle coûte 16 € seulement. Alors, Snapdragon, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une jeune afro-américaine qui vit avec sa mère, Vi, et son chien, Good Boy. Au début de l'histoire, Snap, elle a perdu son chien et elle retrouve sa trace dans une maison bien connue de sa ville, la maison de la sorcière.
Ah, la fameuse
The Sorcière. Mais ça n'effraie pas l'héroïne qui choisit de s'aventurer à l'intérieur pour récupérer son chien. Elle va se retrouver nez à nez avec cette femme aux cheveux courts qui porte un patch sur un patch de pirate là sur un œil et son chien à qui il manque une patte. La dernière fois qu'elle l'a vu, elle avait 4 pattes, là il n'y en a plus que 3, c'est quand même bizarre. La vieille femme va tenter d'effrayer Snap en prétendant avoir mangé la patte de son chien, mais les sorcières, pour Snap, c'est mort, ça n'existe pas. Elle lui fait pas peur et elle lui dit. Pourtant, quelques pages plus tard, cette vieille femme qui porte des crocs effraie tout le village parce qu'elle vit seule et n'a pas d'enfant, prendra Snap sous son aile et lui apprendra peut-être quelques tours. C'est vraiment génial.
Ça a l'air.
J'ai trouvé que c'était formidable tout simplement et nécessaire. C'est une histoire principalement destinée à la jeunesse et elle propose une vision différente du conte de la sorcière. Elle aborde des sujets queer, propose une héroïne noire qui déteste porter des jupes et ne s'intègre pas. Elle grandit dans un trailer park, les campings de mobilhome. Elle est élevée par une mère seule qui travaille énormément puisque c'est une mère célibataire. Elle peut pas reprendre sa vie amoureuse, elle est débordée par le travail, l'éducation de sa fille. Cette BD, c'est vraiment génial parce qu'elle aborde aussi les violences faites aux femmes, les masculinités toxiques, le désir de ne pas avoir d'enfants.
Oh là là.
J'ai envie de dire, mais galère là, on est trop fort.
Tout ça avec pour fond une histoire de magie, d'adolescence, d'écologie, de sauvetage des animaux et des grand-mères lesbiennes. Formidable. C'était juste magique et je vous le conseille vivement.
Trop bien. C'est un toutou, alors là, vraiment, il est trop chelou.
Donc, ouais, c'est vraiment... Il y a un fond assez simple. C'est une histoire basique avec une sorcière, une gamine, machin. Ce qui est cool, c'est que son meilleur ami, il porte du vernis à ongles, bien qu'il fasse partie d'une fratrie de 4 frères. Lui, ce qu'il aime, c'est porter des robes. Enfin, vraiment, ça aborde plein de sujets. L'héroïne, elle est noire, elle est pauvre, elle fait partie des classes sociales les plus basses des États-Unis. Enfin voilà, ça aborde plein de trucs. C'est une outcast en fait, elle fait pas du tout partie des plus populaires à l'école. Et il y a toutes ces histoires d'amour entre femmes, c'est vraiment la puissance des femmes à l'intérieur du récit. C'est trop cool.
Ça a l'air trop bien.
C'est trop bien écrit et vraiment, on le lit, on se rend pas toujours compte de ça à la lecture, on le referme et là on se dit, ok, là ça a abordé plein de sujets qui me touchent et qui sont géniales.
Et en plus, comme tu dis, la notion de représentativité, quoi, où on a un panel de personnages complètement différents, et quelque part, que ce soit pour la fiction ou même les essais comme Virginie Despentes, où tu dis, c'est tellement important juste de lire, de regarder, d'écouter juste d'autres points de vue, pour s'y reconnaître aussi et dire, bah ouais, moi aussi, en fait, je peux, de ouf, en fait, puisque je le vois, je le lis et je l'écoute de la même manière, quoi, donc ça donne trop envie.
C'est trop bien. Trop bien, et ça vient de paraître en français, donc
yes.
il faut le lire.
Ah bon, on va aller à BD lire alors.
Hein. Ah, je vais pas oublier, hein. Ça se roule, non.
Seulement. Alors pour finir, on va écouter Space Girl de Frances Forever, parce que ça aussi c'est trop bien et c'est magique.
Yes.
Voilà.
À bientôt.
Salut. Bisous.